les mouettes. Ça suffit maintenant. Hein ? On arrête. Pour écouter.
Onde d'été, l'émission estivale sur Radio Saint-Af.
Et à tous, bienvenue dans notre dernière onde d'été du mois de juillet. Audrey et Aurélie sont partis pour une émission très spéciale ce matin. Antoine est en vacances, Philippe dort et de son lit, il contrôle peut-être la technique de cette émission. Et alors qu'il est, Jean est en train de siroter un alcool d'abricot en jouant aux échecs en Hongrie. Et moi, eh bien je suis seule aux commandes de la radio. Ha ha ha! Vous allez voir ce que vous allez voir, ou plutôt entendre ce que vous allez entendre. Phil, tu peux cliquer sur Patrick Sébastien, s'il te plaît? Non, je rigole. Je préfère une bonne chanson grivoise occitane. Tu as ça, Phil? En attendant, voici le programme de cette onde d'été. Aurélie a eu un coup de cœur pour le site archéologique de la Groffe Zinc à Millau. Nous en avons tous eu un énorme pour les Nantivals, c'est ce week-end à Nantes, et le parrain du festival est vraiment pas connu. On fera le point grâce à Radio Larzac sur le festival Clair de Lutte qui a débuté et s'achève le 22 août. On remontera dans le temps avec un concert qu'il ne fallait pas manquer à Sylvanès, le trio flamenco. J'ai rencontré pour vous Paco El Lobo. Et je ne vous dis pas tout. Chose promise, chose due, une chanson paillarde de Patrick Sébastien qui passe en concert dans notre beau pays. Il faut bien lui faire de la pub, j'ai pas vu une seule affiche. C'était le groupe La Talvera avec le titre Le Canari. C'est quand même mieux que le petit bonhomme en mousse, non ? De leur album de chansons grivoises d'Occitanie. Mais ils ne font pas que ça. La Talvera est un groupe de musique occitane originaire du village de Cordes-sur-Ciel. Ils seront en concert samedi soir à Saint-Isère. Alors, avis aux danseuses et danseurs de Balletti, le bal est à 21h dans la cour du château de Saint-Isère. Ce concert est proposé par les amis de Salel et c'est 5€. Pour les passionnés d'archéologie, Aurélie est allée repérer pour vous les bons plans après le repas médiéval, le banquet romain.
Pendant les vacances à Millau, la Groffe Zinc organise une animation familiale. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le site archéologique, Solveig du service éducatif nous le présente.
Le site de la Groffe Zinc est un lieu sur lequel, au cours de la période gallo-romaine, des ateliers, des officines de potiers ont pris place et une production très très importante de céramique dite sigillée a été développée sur ce lieu. Et c'est une céramique dont on peut relever surtout l'ampleur par l'importance de sa diffusion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une céramique qu'on va retrouver sur différents sites situés dans différents pays qui correspondent à l'ancien empire romain, parfois même au-delà. Donc c'est un lieu absolument majeur.
Pour découvrir ce site majeur, Solveig nous invite à venir à l'animation à quatre mains.
L'idée étant de venir en famille sur le site archéologique pour à la fois découvrir le site, donc là aussi une vision de l'histoire avec une nouvelle approche, et la rencontre aussi avec un archéologue qui propose la visite de ce site. Et puis ensuite, suite à la visite, on propose la fabrication d'un pot à la mode antique, c'est-à-dire qu'on donne un petit bout d'argile au binôme enfant-parent, et ensemble, ils fabriquent un pot qui ensuite sera décoré avec des poinçons. Ce sont des copies des poinçons qui étaient utilisés par les potiers gallo-romains il y a 2000 ans de ça.
Pour y participer, rendez-vous sur le site de la Groffe Zinc à Millau les jeudis 9 et 16 août à partir de 10h. Tarif 5,20€ par enfant. Pensez à réserver. À partir d'aujourd'hui, mercredi et jusqu'à samedi, se tiennent les journées de l'antique à la Groffe Zinc.
Ce sont des journées qui ont, disons, pour but à la fois de faire connaître le lieu, le site archéologique de la Groffe Zinc, et puis de faire connaître un peu mieux l'antiquité sous ses divers aspects. Donc on va proposer des animations, des ateliers autour de différentes thématiques liées à l'antiquité.
Durant ces 3 jours, vous assisterez à des démonstrations de filage de perles de verre, de fabrication de céramique et de tissage, mais aussi de nombreux ateliers d'écriture, de fibules, de poinçons, de cuisine et bien d'autres. Et pour les gourmands,
dans le cadre des Journées de l'Antique, il y a un repas romain qui est proposé le vendredi 2 août à 19h. Donc c'est un repas avec une personne qui vient faire la cuisine, qui est une spécialiste de la cuisine romaine, donc qui va proposer des mets et des saveurs antiques. Et en parallèle à ce repas, la compagnie Création Éphémère va nous proposer des animations et des lectures autour de l'Odyssée. Donc voilà, vous êtes invités à venir très nombreux et surtout à vous inscrire au préalable auprès du site de la Groffe Zinc.
Les journées de l'Antique commencent aujourd'hui, mercredi, et se terminent samedi. Pour connaître tout le programme et avoir les coordonnées, allez sur le www.groffezinc.fr.
Vous écoutez Ondes d'été sur Radio Saint-Afrique.
Du 2 au 4 août, à Nantes, au pied du Larzac, ont lieu les premières nantivales effervescentes. Avec nous, deux des organisateurs de ce festival de théâtre. Bonjour.
Bonjour.
Eh bien, bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ?
Moi, je m'appelle Mathieu Lourdel. Je suis le directeur général du festival. Voilà, j'ai 27 ans et je suis, on va dire, à l'origine de ce projet.
Et moi, je suis Guillaume Tossello, donc j'ai 29 ans. Je suis directeur adjoint du festival et donc c'est Mathieu qui m'a sollicité pour participer à cette aventure.
C'est ça, moi en fait, je suis un enfant adoptif du pays, on va dire. On est arrivé avec mes parents dans le village de Nantes quand j'avais 11 ans. Et puis j'en suis parti, je suis parti à Toulouse, Paris, Millau, tout ça, enfin, voilà, j'ai un peu bourlingué. Et ça fait 4 ans où je me disais que ce lieu se prêtait parfaitement à ce festival. Et donc il a trotté pas mal dans ma tête. Et puis en septembre dernier, en rentrant à Paris, j'ai contacté Guillaume Tozello, ici présent, et puis Léon Masson, qui était à la direction artistique du festival. On est tous les trois aussi profs au cours Florent. Voilà, et puis on a décidé de passer à l'acte et de le monter, ce festival. Voilà. Alors, le but de ce festival, c'était notamment d'exporter un petit peu le théâtre parisien en dehors de ses frontières parisiennes, de confronter des comédiens qui ne sont pas beaucoup sortis de Paris et qui sont des vrais comédiens parisiens, on va dire entre guillemets, avec un public non averti et dans un endroit où il n'y a pas grand-chose au niveau du théâtre en tout cas.
Et alors c'est un festival de théâtre un peu particulier puisque vous proposez 50 heures de spectacle non-stop. Comment ça se passe ?
Comment ça se passe ? Alors, ça commence donc le 2 à 20h où on envoie les premières pièces. Donc il y a à peu près 4 ou 5 pièces qui sont jouées chaque soir. Ça se termine vers 1h30, 2h du matin. Ensuite, on a un cinéma qui prend le relais pour le reste de la nuit jusqu'à 6h, 7h du matin, l'aube. Ensuite, au petit matin, à 8h30, on a le petit déj du lecteur, qui va être une lecture faite par des comédiens du festival à table. Les gens prennent leur petit déjeuner, puis un comédien se met à table et puis leur fait une petite lecture pendant 2h. Ensuite, à 11h, on a un spectacle enfant. À 13h, on a un spectacle tout public. À 14h, on passe sur les siestivals. Donc, ça dépend. Le samedi, c'est des siestes musicales avec un grand pianiste qui s'appelle Guillaume Fabre, qui sera accompagné d'un chanteur et la chorale Polysong de Mio. Et le dimanche, c'est une sieste électronique avec le DJ Tristan Antoine.
Alors, il faut repréciser que je crois que tous les comédiens qui viennent, toutes les compagnies, viennent gratuitement pour cette année.
C'est ça. Elles sont toutes bénévoles. On les nourrit, on les loge et ils viennent gratuitement. Il y a au total 58 artistes. Pour la première année, c'était un engagement aussi politique de la part des compagnies de pouvoir venir jouer pour pouvoir nous aider et lancer ce festival-là.
C'est vrai que quand on a imaginé le festival, on a imaginé en fait un spectacle qui contient des spectacles. Le festival en lui-même est un spectacle. Et c'est un spectacle ininterrompu. Le but du jeu, c'est de prendre les spectateurs par la main, un peu, quelque part, et de les conduire d'une scène à l'autre, d'un univers, d'un auteur, d'un artiste, d'un metteur en scène, d'un plasticien, d'un musicien, d'un cinéaste. Et dire, voilà, on est dans le domaine de l'émotion, on est là pour partager des émotions. Et finalement, qu'importe la forme qu'elles prennent, ça peut être du théâtre contemporain, du théâtre classique, du cinéma, de la musique, de l'électro, de la musique classique, des lectures, etc. Au final, on est là pour partager un moment ensemble. Voilà, et on va voir ce que ça donne sur une durée de 2 jours et demi.
Alors, moi, je voulais parler du parrain du festival, puisqu'il est très connu quand même dans le milieu.
Ouais.
Qui c'est ?
Alors, le parrain cette année est Lionel Astier. Lionel Astier, qu'on a essentiellement vu, on va dire, pour les gens qui regardent la télé, dans Kaamelott, voilà, qui est le père d'Alexandre Astier, le créateur de la série Kaamelott, qui a joué dans beaucoup de films, qui a créé énormément de pièces, notamment qui a joué dans Les Lyonnais, dans Un dernier pour la route, et qui est une de mes connaissances proches, avec qui j'ai tourné, on avait tous les deux un premier rôle, on a tourné un film ensemble, et donc il a accepté de venir cette année. Il sera présent le 3, le samedi 3. Sur le festival.
Pour savoir tout sur les tarifs, les horaires, la restauration, vous avez un site internet ?
Alors, on a un site internet, c'est lenantival.fr, où donc, tout est indiqué dessus. On a nos tarifs, on a les informations pour le banquet. Donc, il y a un banquet le dernier soir, le dimanche 4 août à 21h, qui est uniquement sur réservation, c'est 20€, qui sera préparé par la chef Héloïse Lubin. Et au niveau des tarifs, sinon, on est à 10€ le pass pour les 2 jours, donc les 2 soirs où il y a le vendredi et le samedi soir où il y a toutes les pièces. Et ça, c'est le pass le plus cher, parce qu'après, c'est dégressif en fonction des jours, des enfants, et ainsi de suite.
La programmation payante, c'est de 19h, grosso modo, à 1h du matin. Tout le reste, l'accès, en tout cas au festival, est libre et gratuit pour tous les autres horaires.
Exactement.
Et on l'a voulu, justement, pour que des familles puissent venir. Les spectacles jeunes publics sont ouverts aux familles et sont complètement gratuits à ce moment-là.
C'est ça.
Donc ça, c'est quand même, voilà, ça c'était vraiment notre volonté.
Et avec, voilà, avec 10€, vous avez accès à tout.
Mathieu Lourdel et Guillaume Tozello, directeur du festival de théâtre Les Nantivals Effervescentes. Ils étaient dans nos studios pour parler du festival qui aura lieu du 2 au 4 août à Nantes. à noter la soirée électro de dimanche pour la clôture du festival avec deux DJ plus un performeur qui fera de la soudure de nuit. Plus d'infos sur leur site lesnantivales.fr.
Vous écoutez Ondes d'été sur Radio Saint-Afrique.
Clair de lutte a commencé depuis jeudi dernier. C'est un festival mêlant ciné-débat, concerts, expos, etc. à la ferme de Brunas. Radio Larzac nous a prêté un bout de son émission spéciale.
Utopie, c'est donc le thème du festival de cette année, Clair de lutte. Hein. Ce n'est pas toujours sur ce thème que vous faites le festival. C'est donc 12 soirées cinéma et débat, 2 concerts, un ciné-concert et 2 journées d'université alternative. On peut peut-être faire un petit état des lieux des thèmes qui seront abordés pendant les soirées cinéma. Alors c'est toujours le même principe, hein, je le rappelle, rendez-vous à partir de 19h, il y a un bistrot, une grande soif, une petite faim. On projette un documentaire ou un film et il y a par la suite un débat, une discussion, soit avec le réalisateur du film, soit avec des personnes qui ont des choses à dire sur le thème abordé. Est-ce qu'on peut faire un petit état des lieux de ces thèmes justement qui seront abordés ? Philippe ?
On a parlé du 25, le dimanche 28, la soirée sera axée sur l'imagination au pouvoir, donc un film de notre ami Rouault, Christian Rouault. La technoscience et machine, homme-machine, ça c'est le dimanche 29.
Lundi 29.
Agriculture alternative, produire autrement. La terre, graine d'utopie.
Avec l'exemple de Marina Leda, et village en utopie en Espagne.
Le mardi 6 août, donc on s'arrêtera sur la non-violence. Avec la non-violence, est-elle une utopie ? S'en suivra donc Utopie Internet. Utopie sociale, donc le familistère, ce qu'a évoqué tout à l'heure Serge, là, ce qu'on a en exposition.
Utopie Internet le jeudi 8 août et Utopie sociale le dimanche 11 août.
Le lundi 12 août, Solidarité internationale. Le lendemain, mardi 13, les écoles alternatives. Une semaine plus tard, le 20 août, décroissance et territoires en transition. Et pour clôturer le festival, donc deux demi-journées, on va dire ça, donc sur l'utopie, création d'un institut d'études politiques alternatives du Larzac. Tout un programme. Voilà, donc ça se clôturera. Ça, c'était pour les 12 soirées, bien évidemment. On s'est dit que c'était bien d'avoir quelques respirations. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on les énumère Donc il y aura un ciné-concert quand même, un Quatuor Octopus, donc musique classique.
Donc hein. Le ciné-concert c'est samedi 17 août.
Et le Quatuor Octopus le lundi.
L'aventure au soleil, sur le Théâtre du Soleil. Alors, vous pouvez en dire quelques mots sur cette soirée, d'ailleurs avec une date
Oui, alors l'aventure au soleil c'est un,
quelle date
une soirée qui est consacré en fait au Théâtre du Soleil. Donc le Théâtre du Soleil, chacun connaît ça, c'est le théâtre qui a été créé dans le début des années 70 par Ariane Nouchkine à la cartoucherie de Vincennes. Et donc nous attendons Ariane Nouchkine à cette soirée. Malheureusement, elle doit être très occupée parce qu'elle ne nous a pas encore donné la date. Donc, dès qu'on aura la date, on la communiquera à la radio, évidemment. Et ce qui nous intéressait avec cette soirée, c'est cette aventure incroyable du Théâtre du Soleil qui a vraiment fondé une autre façon de faire du théâtre et du théâtre militant, souvent. Et voilà. Donc, si par malheur Ariane Nouchkine ne devait pas venir, il y aurait d'autres gens et des gens qui ont participé à toute l'aventure du Théâtre du Soleil, puisqu'on a la chance d'en avoir dans le quartier, comme on dit. Voilà, donc ils seront là.
Merci à Radio Larzac. Clair de lutte, c'est un festival qui rassemble des travaux d'artistes investis dans des luttes sociales, politiques, économiques, écologiques, sous la forme de photos, cinéma, musique, théâtre. C'est jusqu'au 22 août à la ferme de Brunas. Pour en savoir plus, notamment sur la date précise de l'aventure au soleil avec Ariane Nouchkine, allez sur le site Clair de lutte, C-L-A-I-R-D-E, lutteaupluriel.org.
C'est trop tard pour y aller, mais moi j'y étais. Cette voix, c'est celle de Paco El Lobo. J'ai eu la chance de le rencontrer après un concert donné à l'abbaye de Sylvanès. Dimanche 21 juillet, 350 personnes étaient rassemblées dans l'aire du cloître pour cette nuit flamenca. Paco El Lobo était en trio avec le guitariste Cristobal Corbel et la danseuse Veronica Valesillo. El Lobo, qui vous a donné ce surnom, tout ce nom de scène?
Bah oui, c'est le nom de scène. Bah, en fait, dans le milieu gitan, on a tous un surnom, quoi. Pour éviter, parce qu'il y avait beaucoup de Paco, beaucoup de José, beaucoup. Donc, le père qui vendait des tomates, ça sera les fils, ça sera le tomate ou des choses comme ça. Camarón, parce qu'il était tout blond et qui ressemblait à une crevette, il était vif comme ça, donc il s'appelait, on l'appelait comme ça. Et donc, moi, ça a été le Lobo, parce qu'il paraît, quand je suis né, j'avais les yeux bridés à l'intérieur, comme ça. Ça se voit moins maintenant, et ma mère, mais c'est un loup, ça. Et puis, ça m'est resté, c'est comme ça que c'est venu. Et en même temps, c'est un loup, ça chante. Un loup, c'est le contraire du chien, c'est un rebelle, pas domesticable. Et bon, voilà, quoi, il y a un côté comme ça. Ça m'a bien convenu. Ça m'avait appelé le rhinocéros, je sais pas. Et ça a déteint en Espagne, en fait. En Espagne, beaucoup de gens ont un mot, et même pas forcément en Andalousie, dans toute l'Espagne. El Fontanero, El Gordo, le Gros, le Plombier. Un système comme ça de surnom, quoi.
Alors, vos parents, ils viennent d'où? Et vous, vous êtes originaire d'où?
Alors moi je suis né à Paris, je suis un parisien pur port, pure souche. Je suis né par hasard dans la clinique des Bleuets du 11e arrondissement, mais ma famille était installée ce qu'on appelait la zone autour de Paris, donc les bidonvilles et les caravanes. Et du côté de ma mère c'est Manouche, et du côté de mon père c'est Gitan Andalou, du côté de Cadix, voilà. Et l'immigration du côté du père c'est l'immigration de 39. Après la guerre civile, parce que c'est des gens qui étaient engagés politiquement, enfin, des contre-franco, contre le fascisme, quoi, tout simplement. Et du côté de ma mère, c'est Manouche de l'Est, en fait.
Voilà. Et quel pays
Ah non, bah la France, depuis 700 ans, voilà. Là, bah, par les temps qui courent, on pense que les Roms, ils sont arrivés en même temps que Sarkozy, mais c'est pas vrai, c'est que des populations gitanes, par exemple, de Perpignan, sont à Perpignan depuis 600 ans. Les Manouches, ils sont dans l'Est installés depuis 800 ans. Donc c'est pas. Il ne faut pas tout mélanger. Enfin bon voilà quoi. Donc ils ne viennent pas d'un autre pays. Enfin ma mère, elle est française, complètement française. Quoi.
Et comment vous êtes tombé dans la musique?
La musique? Ben, disons dans le flamenco. J'ai découvert ça quand j'avais 8 ans en fait. Sur les terrains là où je vivais, dans les camps, il y a des vieux gitans qui venaient et qui chantaient des choses. Et moi, ça m'a fasciné. C'est les timbres de voix qui m'ont fasciné. Et ensuite, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait écouter des disques. Par exemple, la première anthologie du Crété Thompson, où il y avait tous les meilleurs chanteurs de flamenco de l'époque, des années 50 et 60. Et j'étais fasciné par les timbres, en fait. Parce que ça correspondait exactement à ce qu'on vivait. Et donc pour moi c'était ce rajo comme on appelle, cette cassure, cette fêlure qu'il y a dans les cordes vocales, dans les chanteurs de flamenco, c'était ça qui me touchait profondément. Et voilà quoi, je ne me suis pas posé de questions et puis à l'âge de 8 ans j'ai commencé à beugler comme un fou, à me faire des gargarismes de vinaigre pour avoir la voix encore plus cassée, je fumais des gauloises et j'apprenais tous les disques par cœur et puis voilà quoi. Mais c'était une passion, ça m'a sauvé. Ay, 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 ay.
commencer par le chant alors avant la guitare ou les deux en même temps?
Les deux en même temps. Non, la guitare c'est venu un petit peu après, mais la guitare ça passe par la tête. Moi j'ai pas de tête. Parce que c'est 19 cases, c'est 10 doigts et c'est 6 cordes. Et avec ça, c'est un échiquier, c'est une alchimie, il faut prendre du temps, il faut réfléchir, il faut écouter. Le chant, ça part directement du cœur. Donc ça me correspondait mieux. Je pouvais tout de suite beugler. La guitare, c'était quand même plus difficile. Et j'étais admiratif de la guitare, je n'osais même pas y toucher. Donc après, parallèlement, la guitare, c'est venu vers 13 ans, quoi, à peu près.
Vous aimez être sur scène?
Si j'aime être sur scène, bah c'est mon métier, c'est ma fonction en fait. Parce que le chanteur de flamenco, déjà c'est pas moi qui ai décidé d'être chanteur de flamenco, moi j'adorais ça, mais en même temps j'allais dans les cabarets et j'écoutais des gens, puis après j'ai commencé à faire des remplacements, enfin des choses comme ça, c'est venu petit à petit, c'est pas une décision. Et je me suis rendu compte que c'était un métier, c'était une fonction, parce qu'on apporte des choses aux gens. Si on est en Andalousie, on chante l'histoire. Le chanteur de flamenco, il a un rôle de barde, en fait, ou de conteur, on pourrait dire. Mais ce que je veux dire, c'est dans ce sens-là que ça va. Donc déjà, c'est la communauté qui vous désigne déjà comme ça, c'est pas vous qui vous autoproclamez ça. Et après, donc effectivement, moi, j'être sur scène parce que cette musique, moi, j'aime plus cette musique que moi-même, par exemple. Donc c'est pour ça que j'explique, que je traduis des choses, que j'amène les gens comme ça, d'une manière très simple, hein, d'ailleurs. Je calcule pas, quoi, c'est spontané, quoi.
Pour vous, qu'est-ce que c'est le flamenco?
Moi, qu'est-ce que c'est que le flamenco? De manière théorique, c'est la musique des gitans andalous. Il y a un flamenco gitan qui peut être interprété par les andalous, et il y a un flamenco andalou qui peut être interprété par des gitans, par exemple. Mais c'est la musique des gitanos andalous, et c'est la musique emblématique des gitans. C'est là-dedans qu'on se reconnaît.
Et parlez-nous de votre trio de ce soir. Comment est né ce projet?
Le trio, alors c'est une longue histoire. Moi j'ai connu Véronica il y a pas mal d'années déjà. Et puis je trouve qu'elle a un style particulier. Et puis c'est une belle personne, c'est une belle artiste. Elle fait beaucoup de choses. Elle a beaucoup de projets personnels, beaucoup de choses contemporains. Voilà. Et puis Dobal, je le connais depuis 2 ans, pas plus, mais ça fait tilt tout de suite, parce que c'est un chouette type aussi, et puis ça joue bien. Et donc, à un moment donné, moi j'ai été pris en main par une agence qui s'appelle Les Concerts Parisiens, en solo. Et ensuite, on m'a dit, tiens, ça serait bien que tu t'organises un trio, donc j'ai pensé à ces deux personnes pour faire ce trio. Parce que moi, je bosse qu'avec des êtres humains, je prends pas les meilleurs musiciens, les choses comme ça, je prends déjà, oui, une compétence artistique. En même temps, là, c'est du béton, quoi. Humainement, c'est du béton, quoi. Ils n'ont pas la grosse tête, ils ne sont pas dans le mythe de l'artiste. Ils sont dans les... Bon, on n'est pas pareil, mais on a une éthique commune par rapport à ça, une approche commune, le même amour de cet art, le même côté un peu militant, en fait. Hein. J'ose le dire, quoi. Je suis un peu militant du flamenco. Moi. C'est pour ça que si je faisais du Paco El Lobo, ça m'emmerderait, parce que moi, mon histoire, je la connais, et puis c'est pas ça, j'ai pas envie, moi. Mais par contre, je suis un interprète de cette musique et que j'adore, et donc voilà, quoi, j'essaye de la servir au mieux. Quoi.
Et justement, vous avez un message particulier à faire passer quand vous... Parce que, par exemple, quand on entend la chanson sur le chef... Alors le nom c'est Manpialuta.
Bravo, bien joué.
Je l'ai noté hein, quand même.
C'est du sud.
Et ouais, on voit qu'il y a un message quand même à faire passer au public.
Quand vous étiez dans le spectacle, vous avez vu quand j'ai traduit la Soléa par exemple, mon existence est une horloge qui chemine jour et nuit, lentement dans la peine, très vite dans la joie, point, etc. C'est le flamenco, ce n'est que social. C'est l'amour, c'est la mort, c'est le cri de l'agonie, c'est le cri de la naissance, c'est des choses qui sont très festives, c'est des choses qui parlent de l'histoire, c'est des choses qui parlent de la soumission, c'est la rébellion, pour ça que le franquisme a combattu le flamenco. Dans les bars en Espagne du temps de Franco, c'était marqué... sur des petits écriteaux, c'était marqué « C'est prohibé le cante y escupir al suelo ». C'est-à-dire le cante, c'est le terme pour le chant flamenco. Canto, c'est du chant. Hein, mais cante, c'est le terme, voilà. Il est interdit de chanter flamenco et de cracher par terre, d'associer les deux choses. Parce qu'il se rendait bien compte qu'en gueulant, avec ce cri de révolte, avec des paroles qui, pour le propriétaire et tout le bénéfice, et pour le mineur, etc. Enfin, ça parle de choses comme ça. Ça parle, il y a un contenu social, contenu politique. Un contenu de liberté. Le gitan, c'est un nomade dans l'imaginaire, dans la métaphore. C'est quelqu'un qui est au-dessus, qui va pas travailler toute sa vie dans une entreprise pour monter machin. C'est pas ça notre philosophie. Par exemple, pour le passé et le futur, c'est le même mot, mais c'est fait exprès. Par exemple, on n'a pas d'histoire d'héritage parce que quand un vieux meurt, la roulotte elle est brûlée et rien n'est gardé de lui. Donc c'est une philosophie, ça se ressent dans le... Enfin, je veux dire, ça se reflète dans les textes du flamenco. Là, je suis un peu crevé, j'en ai pas qui me viennent spontanément. Bon, par exemple, un texte écolo et avec... par exemple, un jeune garçon a arraché la branche d'un amandier. Et l'amandier, au lieu de ressentir de la rancune, a répondu avec une pluie de fleurs. Point. Ben, là-dedans, si on commence à décortiquer, c'est écolo... Parce qu'on dit merde, le mec il arrache la branche d'un amandier, la pluie de fleurs, parce que c'est violence qu'il a fait, mais l'amandier. Donc on peut réfléchir sur la non-violence, sur le. Il y a beaucoup de choses contenues dans le flamenco. Mais en même temps, ce n'est pas des choses qui sont précises, temporelles, c'est de l'intemporel. Donc, c'est contre la guerre, c'est contre l'injustice, c'est l'amour, l'amour déçu, puis la philosophie de la vie, que celui qui se prend pour quelqu'un d'important, il y a au cimetière, il verra que le monde se résume à un morceau de terre. Voilà, c'est des philosophies complètement traditionnelles, populaires, très simples, mais qui... C'est pour ça que ça a un rôle de barde, le flamenco, parce que quand on raconte tout ça, ça imprègne les têtes, ça fait réfléchir.
Merci beaucoup. Je vais vous laisser manger, prendre des forces.
J'espère que j'ai pas été trop bavard.
Je voulais vos impressions sur le concert.
C'était super. Une danseuse exceptionnelle, un chanteur exceptionnel, enfin toute l'âme du flamenco compris, c'était vraiment extraordinaire.
Vous connaissiez Paco El Lobo ?
Mais, je ne connaissais pas, mais bon, c'est très intéressant parce qu'on a appris beaucoup de choses sur l'art du flamenco et les différentes façons de l'interpréter. Et puis surtout, je pense qu'on a été plusieurs à être touchés par cette humilité des interprètes qui font bien ressentir justement cet état d'esprit qui est celui du flamenco, certainement. C'est comme ça qu'on l'aperçoit ce soir.
Écoutez, c'est une soirée magique.
Magique. Eh bien écoutez, moi je veux bien dire que c'était très très beau, qu'on a beaucoup aimé, voilà, que ce sont de grands artistes. Et voilà. Vous aimez le flamenco ?
Ah oui, 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 depuis longtemps.
Et vous êtes venu spécialement pour Paco El Lobo et...
Oui, oui, pour ce spectacle-là.
Et vous avez été ravie.
Bonsoir.
Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce concert ?
J'adore tout ça parce que petit déjà je jouais un petit peu et ma soeur dansait et revenir et revoir quelque chose comme ça, c'est extraordinaire.
Vous jouiez de quoi ?
De la guitare.
Flamenca ?
De la guitare sèche avec un prof qui faisait du flamenco, oui. Et bon, j'ai arrêté quand j'étais petit, mais franchement, il y a du talent maintenant, ça c'est sûr.
Et ça vous donne peut-être envie de vous y remettre ?
Évidemment, oui, sur le moment, là, bien évidemment, j'ai envie de sauter sur la guitare et d'aller en jouer, mais je ne l'ai pas avec moi, là.
Vous venez d'où ?
De Pézenas.
Et votre sœur n'est pas là ?
Elle est là-bas.
Alors, vous attendez les artistes, non, peut-être ?
Elle veut lui parler à la danseuse, je pense qu'elle va parler à la danseuse.
J'ai adoré, parce que déjà, petite, j'avais fait de la sévienne. Je pense pas que ce soit pareil, mais...
De la danse ?
Oui, c'est proche, mais j'adore cet esprit-là. Le spectacle m'a beaucoup impressionnée et d'ailleurs je vais reprendre cette année la danse. Ça m'a redonné envie.
Et là vous attendez d'avoir la danseuse.
Oui, la danseuse.
Vous la connaissiez ?
Non, pas du tout, mais j'ai envie de lui parler.
Vous avez trouvé comment sa performance ?
C'était magnifique. Son jeu de jambes était impressionnant. C'était très beau.
Paco El Lobo était en concert dimanche 21 juillet à l'abbaye de Sylvanès. Avec son trio flamenco, lui-même au chant et à la guitare,
Cristobal Corbel à la deuxième guitare, Veronica Valesillo à la danse et au palmas. Une nuit de pleine lune inoubliable où le loup a chanté jusque tard dans la salle du scriptorium. Sans transition, on reste à Sylvanès, la programmation de ce week-end avec Michel Volkovitsky, directeur du festival.
36e festival de l'abbaye de Sylvanès, le programme de cette semaine présenté par Michel Volkovitsky.
Le 4 août, là, on aura le concert qui aura été préparé pendant 10 jours préalables par l'Académie baroque que dirige Jean-Michel Asseler, assisté de Irène Assayac et de la Chapelle royale de Versailles, et de Anne Petit, qui est une pédagogue de la voix. Et là, au cours de cette académie, seront montées les Vêpres à la Vierge de Claudio Monteverdi, donc qui est une, là aussi, c'est un chef-d'œuvre, hein, qui est vraiment une œuvre, je dirais, parmi les plus prestigieuses de cette période de la Renaissance. Et ce qui est intéressant dans cette académie de baroque, c'est qu'à la fois nous avons un chœur de gens plus anciens, qui sont des amateurs de très bon niveau, qui vont être soumis à un travail quasiment professionnel, et puis un jeune chœur où on aura une vingtaine d'adolescents entre 14 et 20 ans qui vont venir renforcer. Et quand on dit que les jeunes n'aiment pas la musique classique, ouais, là on est en train effectivement de démentir les choses. Et puis bien sûr, un orchestre baroque que nous créons tous les ans avec des musiciens que l'on choisit d'univers différents mais qui sont tous des musiciens qui jouent sur des instruments anciens. C'est vraiment un des sommets, je dirais, parmi les concerts de l'été. Le soir, alors là, on change complètement de répertoire puisque nous allerons une nuit du gospel avec le Gospel Legend Singer. Et là, bon, c'est bien sûr ces voix, je dirais, chaudes et chaleureuses du gospel où nous entendrons des chants pleins d'allégresse, d'optimisme, issus des prêches exaltés de la liturgie protestante. Et là, nous aurons un répertoire qui s'étendra des standards du Negro Spiritual au chant plus, je dirais, rythmé, syncopé du gospel afro-américain, puis avec une orchestration parfois un peu explosive, hein, voilà, donc c'est quand même intéressant. Disons que là, on se rapproche d'une expression du gospel plus contemporaine.
Je vous ai menti. Jean est revenu de Hongrie en pleine forme. À Keskemet, il a testé pour vous la palinka, une eau de vie d'abricot. Et en bon preneur de son qu'il est, nous a ramené une pépite. Non, ce n'est pas le concert de Prodigy au Seajet Festival, mais presque. Dans cette ville provinciale, Keskemet, à 79 km de Budapest, chaque jour à 12h et 18h, les carillons de l'hôtel de ville égrènent des mélodies de Kodály, Handel, Beethoven, Mozart. À 20h, ce sont des chansons populaires et Jean a capté le rendez-vous à ne pas manquer à 18h. Le carillon entre en concurrence et en résonance avec les cloches des églises voisines, une catholique, une orthodoxe et une protestante. Merci Jean.
Where is Stanley?
Oh, Stanley in the rubric. Oh, rubric of rock.
Mm-hmm.
Le 5 août commence le festival de rencontres et musique de chambre du Larzac à Nantes. Plus d'infos sur lefestivaldularzac.com. Sinon, quoi faire ce week-end? Claire de Lutte continue avec des ciné-débats, par exemple La Terre, graine d'utopie, jeudi 1er août, une soirée respiration avec le Quatuor Octopus, lundi 5 août, et encore un ciné-débat mardi sur la non-violence. Plus d'infos sur leur site clairedelutte.org. C'est le 24e festival de théâtre au château de Montégut du 1er au 15 août. Par exemple, le CID ce jeudi 1er août et vendredi 2 août à 21h30. Ou le soldat fanfaron, une comédie masquée dimanche 4 août à 21h30 toujours. Les places sont à 15€ et gratuits pour les moins de 12 ans. Je vous rappelle qu'on a des places à faire gagner pour le spectacle de théâtre Faut pas rêver de la troupe familiale Le Comptoir Déambulatoire. C'est un mélange de théâtre d'ombre, de musique et de chant. C'est du jeudi au dimanche jusqu'au 16 août à la Couvertoirade. Le spectacle Faut pas rêver, on a des places donc à vous faire gagner. Autre place à faire gagner pour les chants grégoriens. À l'église de Sainte-Afrique, cette fois, c'est le 14 août à 20h30, quand les chants grégoriens rencontrent la musique pop. Ça m'intrigue, ça devrait être impressionnant. Pour cela, il suffit de nous téléphoner juste après cette émission de préférence. Je suis toute seule en studio et ne peux donc pas décrocher le téléphone, à moins que Philippe, notre technicien, s'entraîne à distance. Sinon, Radio Sainte-Afrique fait la prévente de billets pour le Cap Festival le 16 et 17 août prochain au Vibal. Une bonne programmation. Venez nous voir à la radio, place de l'Hôtel de Ville à Sainte-Afrique. Merci à Aurélie, Audrey, Jean, Philippe à la technique, Radio Larzac, Paco El Lobo et le trio Flamenco, ainsi que toute l'équipe de l'abbaye de Sylvanès, Mathieu Lourdel, Guillaume Tosello des Nantivales, effervescentes. On se retrouve mercredi prochain à 10h10 pour une onde d'été spéciale Nantivales, justement. Enfin, si on en revient, Audrey va tout de même interviewer son idole, Lionel Astier, alors je ne réponds de rien. Cette émission est en rediffusion le jeudi à 20h et le vendredi à 17h. Au mois prochain, salut !